Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre émission dédiée au bien-être, au mieux vivre et à votre santé, tous les jours en direct de 11h à 12h30.
Alors au programme aujourd'hui Mélanie, on va tenter de répondre à cette question pour commencer. La crise de la quarantaine ou même de la cinquantaine est-elle un mythe ou au contraire un passage obligé? On expliquera ce qui se passe en général, ce qui se joue dans cette transition du milieu de vie et avec le psychiatre, le docteur Christophe Fauré, on verra surtout comment traverser cette étape sereinement.
Bon, et que ce soit sur ce sujet de la crise de la quarantaine, de la cinquantaine ou sur les autres thèmes de l'émission, vous le savez, vous pouvez nous poser vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 ou encore sur le compte Instagram de l'émission.
Ensuite, à 11h45, il y aura notre séquence tendance avec tous les jours deux de nos chroniqueurs. Ce matin, Soizic Belin, notre spécialiste loisir, a testé pour nous un truc étonnant, une Fury Room, une pièce dans laquelle l'objectif, c'est tout simplement de tout casser, de se débouffler. Et puis lui, il casse pas, il répare. C'est le docteur Oren Marco, notre docteur beauty, qui sera avec nous lui aussi. Et avec ses doigts de magicien, il va faire disparaître ce matin tous les bourrelets. Rien que ça, ça nous intéresse.
Allez, Julia, et dès midi, dans notre séquence dédiée à la santé, à l'occasion de la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer, on a décidé de faire de la prévention. Nous, notre invité, grand spécialiste du vieillissement, le professeur Philippe Amouyel, nous expliquera tout ce que l'on peut faire au quotidien pour essayer de repousser Alzheimer, pour garder un cerveau au top le plus longtemps possible.
Europe 1.
Bien fait pour vous, c'est parti. Alors Mélanie, aujourd'hui on se pose la question suivante. La crise de la quarantaine ou même de la cinquantaine est-elle un mythe ou au contraire un passage obligé?
Eh oui Julien, on va décortiquer ce matin ces crises du milieu de vie, tant sur le plan physique que psychologique, ce sera dans un instant. Mais avant ça, alors lui, je vais tout vous dire, hein, il approche de la quarantaine.
Ouais.
Même s'il a toujours ce visage enfantin et cet air juvénile, pour démarrer notre premier sujet du jour, il est évidemment avec nous, c'est Clément Lanoux.
Bonjour Clément. Mélanie, bonjour Julia.
Vous n'avez que 37 ans?
J'ai que 37 ans, oh. Et puisqu'on balance les âges, vous avez 27 et 24, mais je ne dirais pas qui a quel âge.
Vous nous avez percé.
Évidemment, on va parler aujourd'hui de la crise de la quarantaine. Je suis parti avec un micro dans la rue, voir si c'était un mythe, si on était au courant de ce qu'est la crise de la quarantaine. J'ai trouvé une famille au complet et je leur ai demandé c'est quoi la crise de la quarantaine.
Péter un câble parce qu'on a 40 ans.
Je sais pas, j'ai pas encore mes 40 ans.
Bah ça c'était avec le Covid, hein. La quarantaine.
Moi j'ai 41 ans, je suis divorcé depuis l'année dernière. Je sais pas, ça doit être ça, je pense.
Peut-être. Voilà, donc on a déjà chacun son opinion. J'ai bien aimé la quarantaine,
oui,
la mise en quarantaine, c'était
COVID,
ça.
Au Covid, oui, c'est vrai.
Exactement. Alors j'ai trouvé ensuite la femme la moins optimiste de France. Elle est là, je lui ai demandé, c'est quoi la crise de la quarantaine? Que des bonnes nouvelles.
La crise de la quarantaine, ça peut être des tromperies, des séparations, les divorces, et puis bah ouais, les gens sortent des cours.
Voilà, des tromperies, des divorces. Ah bah, on a tous hâte justement de la vivre si elle existe, cette crise de la quarantaine. Alors parfois on n'y croit pas, on se dit non mais c'est un mythe, mais on peut être surpris comme cette jeune femme.
En fait, je pensais pas que ça existait, et j'avoue que côté cœur, j'ai très envie de rencontrer quelqu'un de plus jeune. Donc apparemment, c'est ça la crise de la quarantaine.
Peut-être.
On devient cougar, quoi.
Peut-être.
C'est un peu ça.
Peut-être
d'accord.
Pas tout le monde. Cette jeune femme, en tout cas, vous avez vu 40 ans, j'ai dit jeune femme.
Bah oui.
Je tiens à souligner vraiment ce texte très précis. Et puis j'ai aussi rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais moi, je ne l'ai pas faite. Je n'ai pas peur de vieillir. Voilà, peut-être qu'on a une explication.
Alors moi, très honnêtement, dès mes 18 ans, je rêvais d'avoir 40 ans parce que je me disais qu'à 40 ans, ce serait formidable, j'aurais réussi plein de choses. Donc je n'ai pas eu de crise de la quarantaine. Par contre, ce qui me fait flipper maintenant, c'est la crise de la cinquantaine. Là, je me suis fixé la barre est beaucoup plus haute et je flippe des 50 ans en me disant mince, j'aurais pas réussi telle et telle chose.
Donc peut-être que la crise
que
de 40 ans,
tout
ah, oui,
ça,
oui,
hein,
peut-être mais... que le milieu de vie, on se disait l'espérance de vie était jusqu'à 80,
en fait,
c'était une tranche.
Ouais.
Peut-être que comme on vit de plus en plus vieux, 50 fait maintenant plus peur que 40. On verra, on expliquera sûrement ça tout à l'heure.
50 c'est le nouveau 40.
C'est la nouvelle vingtaine même. Il y a pas de souci là-dessus. Et puis pour résumer, j'ai quand même évidemment comme chaque jour posé la question aux enfants. C'est quoi la crise de la quarantaine? À quoi on la reconnaît?
La crise de la quarantaine, c'est quand ils ont peur de vieillir, ils aiment pas, ils ont peur et ils ont peur de devenir vieux et que leur enfant ne les aime plus, qu'ils disent que c'est des vieux et tout.
Depuis que ma mère a 40 ans, elle fait du sport, elle va à la piscine, elle fait le régime, tout. Les crèmes, tout. Elle a peur d'être vieille.
Alors,
La crise de la quarantaine, bah, c'est quand les vieux, ils pètent un câble. Et voilà quoi, ils sont chiants, ils pètent un câble, et puis ça y est. Hein. Ils rendent tous ses enfants, et puis voilà, on est punis à cause de la quarantaine.
Voilà. Ils sont punis à la crise de la quarantaine de maman.
C'est
oh là
ça.
Là.
Si les enfants sont punis, c'est de la faute de la crise de la quarantaine. C'est tout ce que je retiendrai
et
de ce petit moment.
C'est un peu à cause du Covid, hein, n'oubliez
aussi
pas.
Un petit peu la mise en quarantaine et la crise de la quarantaine, c'est un peu la même chose.
C'est bon. Ça. Mais merci beaucoup Clément Lanoux. On vous retrouvera bien sûr demain avec encore plus de témoignages et toujours davantage de bonne humeur. Mais tout de suite, Mélanie, je me tourne vers notre invité du jour. C'est le docteur Christophe Fauré. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et l'auteur du livre « Maintenant ou jamais » aux éditions Albin Michel. Alors, première question, docteur. Pourquoi c'est un aussi grand cap quand on arrive dans cette tranche d'âge entre 40 et 50 ans, grosso modo?
Oui, on va dire vraiment la tranche 40-50 ans, pour être vraiment beaucoup plus calé, parce que 40 ans, on est encore un petit peu jeune pour que ce soit vraiment le sujet. Eh bien, il se passe à ce moment-là de notre vie une convergence en même temps de plein d'événements. Le corps change. En même temps, le couple, ça veut peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on est ensemble. Donc, il y a vraiment des choses qui sont peut-être à revoir. En même temps, les enfants commencent à quitter la maison. En même temps, on commence à s'occuper de nos parents qui peuvent parfois devenir dépendants, voire très dépendants. En même temps, on a déjà avancé dans sa carrière professionnelle et on commence à se dire « mais est-ce que c'est exactement ça que j'aurais voulu vivre ?» Et en même temps, il n'y a que des « en même temps » là. Et en même temps, il y a un questionnement de fond sur « mais est-ce que je vis la vie que je veux vivre ?» Qu'est-ce que je fais de bon, d'utile, d'accompli dans mon existence? Donc c'est plutôt la convergence au même moment de plein de problématiques, parce que ces différentes problématiques, on peut les voir surgir de manière différente dans l'existence. Et on ne parle pas de transition de milieu de vie ou de crise, entre guillemets, de milieu de vie. Mais là, c'est la convergence tout en même temps, et ça crée un climat émotionnel de fragilité intérieure au moment même de notre vie où on est censé être le plus stable, le plus ancré, le plus sûr de là où on va.
Ça fait beaucoup d'en même temps. Moi, j'ai très peur. Tout à coup, je vais partir faire ce que j'ai à faire.
C'est dans combien d'années, Mélanie?
Dans deux ans, j'ai peur un peu.
C'est ça
là.
Qui fait flipper un petit peu. C'est qu'on se dit, waouh, il y a plein d'enjeux et on n'est pas tout à fait préparé à ce cumul d'enjeux importants dans une existence.
Clément Lanoux,
si justement on se pose ces questions avant qu'on a conscience de tout ça, on peut passer largement au travers.
On peut se préparer, Clément, vous et
exactement.
Moi, hein, on est à 37-38 là.
J'ai l'impression
là.
Que c'est, non, c'est, si tout nous tombe dessus comme ça, si jamais on est prêt, toutes ces questions, on se les est posées avant, j'imagine qu'on la vit beaucoup mieux.
C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin.
Ah, ben voilà.
C'est pareil que la crise de l'adolescence, d'une certaine façon, ou pas?
D'une certaine manière, c'est pas la même chose, mais c'est un peu la même idée.
Il y a beaucoup d'en même temps à l'adolescence aussi.
Dans l'adolescence, le corps change, le rapport aux parents change, la vie sociale change, l'axe professionnel est en train de se définir. Mais qu'est-ce que je fait de ma vie. Donc c'est vraiment dans la tonalité, c'est la même chose. Donc en fait, plutôt que parler de crise, c'est une transition naturelle. C'est ça qui est important à préciser. Ça touche tout le monde. C'est pas une crise, parce qu'une crise, c'est quelque chose qui ne devrait pas être. Alors que là, c'est un processus vraiment naturel. Et plus on s'y prépare, en conscience, en sachant que ça va survenir, plus on est beaucoup plus à même de le vivre.
Mélanie et Clément, ça veut dire que vous allez y passer bientôt.
On a deux
bientôt.
Ans pour se préparer.
Mais vous avez du temps pour vous y passer. Mais vous y passerez comme c'est je suis passée, moi aussi, par là.
Bah, ouais. Julia, vous avez l'air tellement sereine. Moi, ça me donne presque envie.
Moi, je me souviens de la crise de la quarantaine, c'était raide. Hein. On en parlera tout à l'heure.
Ah ouais.
Docteur Fauré, vous restez encore avec nous. On va rentrer justement un peu plus dans le vif du sujet. On va voir juste après ce qu'il se passe dans la tête de ceux qui vont franchir comme nous ces caps de 40 ou 50 ans. Pourquoi parfois c'est si douloureux, si explosif ce changement de dizaine? On va vous détailler tout ça sur Europe 1. Alors restez avec nous.
Europe 1, 11h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on vous donne toutes nos astuces, nos conseils ce matin pour répondre à cette question. La crise de la quarantaine ou même de la cinquantaine est-elle un mythe ou un passage obligé? Alors pour y voir plus clair, docteur Christophe Fauré, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes psychiatre. Et docteur Fauré, votre livre s'appelle « Maintenant ou jamais » chez Albin Michel. Alors moi j'avoue, ce titre, il faut un peu les jetons quand même. Hein. À 38 ans, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut se préparer au pire, il faut pas se louper. Quoi,
hein. pas au pire, mais faut se préparer à une transition naturelle, indispensable pour notre croissance. On passe d'une étape à une autre comme un crabe qui a besoin de grandir. Ben il va laisser ça à sa vieille peau et pendant un temps, le crabe, il est un petit peu vulnérable. Donc il se met sur un rocher pour se cacher, mais ça lui permet d'être une expansion. Donc c'est un processus de croissance. Faut laisser tomber l'idée de crise, parce que quand il y a une étude américaine qui montre que la crise, entre guillemets, l'année où le gars il part avec la nounou, il s'achète une décapotable.
Oui, comme le disaient les enfants chez Clément Lanoux tout à l'heure, le pétage de câble de maman.
C'est que 8% de la population.
En plus, il disait le pétage de câble de maman. Pourquoi on ne parle jamais des messieurs? Ça ne concerne pas que les hommes, la crise.
Les messieurs qui partent avec la nounou, il y en a quand même plein.
Rassurez-vous, tout va bien.
Et la décapotable, apparemment.
Mais c'est 8% des gens. Donc vraiment, il faut le aborder sereinement. Mais si on l'aborde en conscience, conscient qu'il y a des enjeux particuliers, là c'est beaucoup plus serein.
Mais docteur, c'est vraiment, la vie est vraiment si différente que l'on ait 38 ans comme Mélanie ou 46 ans comme moi.
Julia et moi, on n'a pas l'impression de vivre des vies très différentes, non?
Non, pas différent, mais il y a vraiment un questionnement. En apparence, peut-être pas, mais à l'intérieur, au fond du fond de soi, quand les années arrivent, 45, 50 ans, il y a vraiment un questionnement de fond qui est le questionnement essentiel, en fait, de cette transition du milieu de vie, c'est: qu'est-ce que je fais de mon existence?
Il y a quatre questions qu'il faut se poser, je crois.
Il y a 6 secteurs de vie.
Allez-y.
Le secteur du couple, le secteur du corps, le secteur des enfants, des parents, de la vie professionnelle et de la vie personnelle, je dirais, spirituelle et tout. Et pour chacun de ces secteurs, on peut faire une feuille à quatre pour chacun de ces secteurs-là. Et pour chaque secteur, on se pose 4 questions. Dans ce secteur, par exemple, du corps, qu'est-ce qui est bon et bien que je continue? Sans rien toucher.
Les restos.
Deuxième, dans ce secteur, qu'est-ce qui est bon et bien, mais que j'ai besoin d'ajuster, parce que ça ne fonctionne plus comme la première moitié de mon existence. Troisième question, c'est qu'est-ce que je veux définitivement arrêter, parce que c'est plus bon pour moi.
Julia, vous voulez arrêter quoi?
Fumer. Moi, je veux arrêter la cigarette, par exemple.
Exactement, fumer. Et la quatrième question, c'est qu'est-ce qui n'existait pas dans ma vie et qu'il serait bon et bien pour moi d'initier. Donc, quand on prend ces 4 questions... Arrêter, ajuster, commencer,
modifier.
Eh bien, dans ces 6 secteurs de vie, on se rend compte en fait qu'on a un plan de route, que c'est cette période qui peut être vécue comme un peu anarchique parce que tout arrive en même temps. On a un cadre et on peut se faire des promesses, dire je vais suivre tel ou tel chemin pour être un peu plus serein par rapport à cette période-là.
Mais docteur, est-ce que ça se fait forcément dans la douleur, cette transition?
Non, mais bien sûr que non. Il y a vraiment des gens qui sont dans un truc très harmonieux, tout comme un adolescent peut traverser la période de l'adolescence sans faire de crise d'adolescence de
mais
façon
moi, je trouve que
très harmonieuse.
Je me permets, Julia, vous traversez la quarantaine de manière spectaculaire. Moi, je vous trouve étincelante. Est-ce que ça veut dire qu'à la cinquantaine, elle va faire une crise?
Non, c'est parce que vous ne m'avez pas connue à 40, 41 ans. C'était raide.
Oui, mais ce n'est pas nécessairement dans la douleur. Mais c'est important que plus on aborde cette période-là en conscience. C'est ça le point important, de vraiment savoir qu'il y a des choses qui vont se passer et quand on accompagne ce changement, je dirais avec grâce, intelligence, sagesse, eh bien ça se passe extrêmement bien avec, au bout du compte, parce que c'est tout sauf un processus négatif, qualitativement, en termes d'accomplissement, de sentiment d'être bien ancré dans son existence, c'est ça le fruit de cette transition de milieu de vie. C'est pas du tout l'effondrement comme les petits garçons disaient tout à l'heure. C'est au contraire une promesse de vraiment d'accomplissement pour passer à la deuxième moitié de son existence.
Bon, si on prend la base, le physique, le vieillissement, il va y avoir des signes de l'âge qui vont s'installer,
exactement,
40 et 50 ans. Est-ce que ça se passe mieux, cette crise, on l'a dit, cette transition de milieu de vie, si on cède un peu de chirurgie esthétique, ou donc on prend soin de soi, même tout simplement, plus.
Le point clé, c'est vraiment prendre soin du corps, par exemple, la question qu'on se pose, qu'est-ce que j'initie? Ça peut être initié à 45 ans, 50 ans, du sport. Et il y a une étude américaine qui montre que les gens qui n'avaient jamais fait de sport, et qui commençaient à 50 ans, à 80 ans, avaient un niveau d'énergie qui dépassait
c'est génial, il n'est jamais trop tard.
Jamais,
absolument. Clément, vous voyez,
donc
c'est possible.
Le message, si j'ai bien compris, il ne faut pas commencer le sport avant 50 ans.
Exactement, je l'attends déjà.
Vous avez bien fait de rien faire jusque-là.
Le corps, l'alimentation, c'est vraiment une hygiène de vie, mais prendre soin de son corps, prendre soin de sa tête et de son couple, c'est la même chose.
Est-ce qu'à cette période-là de transition, donc entre 40 et 50 ans, il y a une vraie différence de vécu entre les hommes et les femmes?
Alors, on se rend compte que non. Peut-être au niveau du corps, pour les femmes, il y a vraiment des changements qui sont très manifestes, mais je dirais que c'est plus un processus humain, parce qu'il y a autant d'hommes et de femmes qui peuvent être complètement troublés par le sens qu'ils donnent à leur vie, leur sens de leur vie professionnelle, la place, par exemple, les enfants. Les enfants vont être sur le départ. Eh bien, on pensait avant que le fameux syndrome du nid vide, où c'était la mère qui était complètement effondrée, mais là, c'était dans les années passées, où il y avait une identité de la femme qui était beaucoup sur l'identité de mère.
Et les hommes s'occupaient peu des enfants, voilà. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, bien sûr.
C'est pas vrai, on se rend compte, il y a d'autres études qui montrent que parfois le nid vide est ressenti beaucoup plus douloureusement par les pères qui se rendent compte qu'ils ont loupé le coche et que leur enfant part, et sont complètement démunis en disant « mais j'ai perdu des années précieuses avec mon enfant ». Donc c'est pas vraiment lié au sexe, les gens, c'est vraiment lié à l'attitude intérieure.
Ce que je trouve intéressant aussi dans cette période-là, qui pour le coup ça ne fait pas peur, c'est qu'on arrive aussi à un âge où finalement on est plus honnête avec soi-même, on peut profiter des choses parce qu'on prend plus de recul, on a gagné un peu en sagesse quelque part, et ça, profitons-en, non ?
Exactement, c'est vraiment important de se rendre compte que pendant la première moitié de notre vie, on a vraiment régi notre existence, beaucoup en fonction de ce qu'on nous disait de faire, fais ceci, fais ça, et c'est comme ça que tu vas être heureux. Et on se rend compte après 40, 45, 50 ans que ces prescriptions pour être heureux n'ont pas forcément marché. On a un peu trompé sur la marchandise et on s'est dit, non, moi, mon expérience intimement, je me rends compte que je peux m'affranchir des règles ou des injonctions ou des conditionnements de la première moitié de la vie pour entrer avec peut-être plus de liberté et de vrais choix intérieurs sur ce que je veux faire de la deuxième moitié de mon existence.
Est-ce qu'il y a des facteurs de risque, entre guillemets, pour faire une véritable crise existentielle entre 40 et 50 ans ?
Ouais, la méconnaître. Méconnaître ça, être vraiment arc-bouté, en fait, la résistance au réel. La résistance au réel, je résiste à mon corps
qui vieillit. Je ne veux pas du tout vieillir.
Je me mets en souffrance. Je résiste par rapport au fait que mon couple ne fonctionne pas ou plus vraiment, ou qu'il y a besoin des choses, qu'il y a besoin d'ajuster des choses. Et je résiste à l'idée d'un changement, d'une thérapie de couple, de quelque chose, une vraie discussion.
Le déni,
voilà.
Quoi.
Voilà. Dès qu'il y a le déni, la résistance par rapport au réel, quel que soit le réel dans les 6 secteurs qu'on a vus, c'est là où on ouvre grand la brèche à la fragilité.
C'est aussi une période de la vie où parfois on ressent un besoin de spiritualité. Je crois que même vous êtes passé par là, vous avez écrit un bouquin, hein, S'aimer enfin, un chemin initiatique pour retrouver l'essentiel chez Albin Michel, où vous racontez quelque part votre petite crise de la quarantaine.
À 40 ans, carrément, le garçon, il l'a fait fort, là. À 40 ans, j'ai quitté tout pour partir pendant 2 ans dans un monastère bouddhiste tibétain.
2 ans, quand même. Ah ouais, c'est une belle crise.
Plus encore, allons-y.
C'est une belle crise. Vous n'aviez pas de nounou. C'est pour ça.
J'ai devenu moine pendant 2 ans. Mais puis maintenant, je suis revenu.
Vous avez gardé la coupe de cheveux.
mais c'est vraiment... C'est en essence, c'est ça, au bout du compte. Hein. Cette transition, il y a une dimension très spirituelle. Je ne dis pas religieuse, hein, mais spirituelle sur le sens des choses. C'est vraiment le désir qu'au plus profond de soi, son existence est une empreinte positive sur soi-même, sur ce qu'on aime et sur le monde.
Est-ce que c'est parce qu'on sait qu'il nous reste que la moitié à vivre et donc on se rapproche peu à peu de la mort ?
Exactement.
Allez, bonne journée. C'est une émission positive, Julien, on a dit. Hein.
Non, mais d'autant plus, comme ça devient de plus en plus court, ça devient de plus en plus précieux.
Bien sûr.
On ne gaspille plus, on a beaucoup moins envie de gaspiller un temps précieux devant peut-être des séries pendant tout un week-end.
Ou des amis qu'on aime moyen.
Voilà,
ou...
on recherche le qualitatif, donc ça peut être, on peut être amené à poser des décisions beaucoup plus saine pour soi, parce que ce temps est précieux et devient de plus en plus précieux. On n'a pas envie de le gaspiller en choses sans importance.
Merci beaucoup, docteur Fauré. On va poursuivre notre crise de la quarantaine ensemble dans un instant et s'intéresser un peu plus à notre rapport aux autres quand on a 40 ou 50 ans. Pourquoi certains envoient tout baldinguer, le métier, le mari ou la femme? Nous, on va essayer surtout d'éviter tout ça, hein, ce matin. Des conseils pour une quarantaine ou une cinquantaine bien sereine, c'est ce qu'on vous promet ici sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est beau une femme à 40 ans.
Merci. C'est une spéciale dédicace ou pas ?
Évidemment.
Merci Herbert Léonard. Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On se pose ce matin cette question. La crise de la quarantaine, de la cinquantaine, est-elle un mythe ou un passage obligé ? On en parle avec notre invité, le psychiatre Christophe Fauré. Alors on va parler du rapport aux autres à présent, hein, lorsqu'on traverse ces crises du milieu de vie. Pourquoi tant de quadragénaires changent parfois radicalement de vie lorsqu'ils atteignent cet âge-là ? Est-ce que c'est le fameux « avant qu'il ne soit trop tard », docteur ?
Il y a quelque chose de cet ordre-là, vraiment. On a cheminé, on a les études, on s'est marié, on a suivi vraiment les prescriptions de notre société, de notre éducation. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas qu'on a peut-être cherché à être la personne qu'on voulait qu'on soit et pas la personne que soi-même on voulait être. Et cette prise de conscience, une fois que, qu'on avance dans l'âge, on se rend compte que non, je ne veux plus être soumis à ça. C'est un vrai courage hein, de rencontrer cela, de se dire « Ok, je ne veux plus de ça » parce qu'il y a devant tout à...
Reconstruire. Ça veut dire qu'on passe de l'être, enfin du paraître à l'être. C'est vraiment ça.
Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. En fait, pourquoi on s'est ajusté, accommodé à ces injonctions de l'éducation de la société, c'était pour trouver notre place. En gros, pour être aimé, pour avoir une existence dans le monde. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas forcément cette place qui nous a été attribuée, n'est pas forcément celle que l'on veut, parce qu'on veut peut-être autre chose. Mais il n'y a pas besoin de faire une rupture, une catastrophe. Mmh. C'est une évolution, ce n'est pas une révolution. Et ça peut être très en douceur, mais le prérequis indispensable, c'est de se poser et un petit peu de réfléchir, de penser à ce qu'on est en train de faire.
Alors on va commencer en parlant d'amour, peut-être. C'est souvent à 40 ans, à 50 ans, on en entend quand même autour de nous des gens qui divorcent, qui se séparent, qui vous disiez qu'il est parti avec la nounou, pas forcément. Mais en tout cas, pourquoi c'est souvent à 40, 50 ans, c'est un bon moment aussi pour commencer une nouvelle relation, celle qui est vraiment celle qu'on aurait dû avoir au départ, c'est ça?
Alors disons-le clairement, c'est une période à risque de relations extra-conjugales. Hein. C'est vraiment statistiquement, c'est vraiment une période...
Les études le montrent.
C'est vraiment clair. Il y a peut-être déjà 10 ans, 20 ans de relation, il y a un vrai enjeu de se rechoisir. Parce qu'on est tombé dans une certaine routine. On a oublié de voir l'autre. D'ailleurs, j'écris un bouquin qui s'appelle « Ensemble, mais seul ». C'est la solitude dans le couple. Et on se retrouve avec l'idée de « mais est-ce qu'il n'est pas trop tard ?» Alors peut-être que cette tendance au zapping est un peu trop rapide. Et on se dit, je suis un peu en dissatisfaction, je vais changer rapidement en pensant que la solution est nécessairement à l'extérieur.
Ce qui n'est pas vrai,
et
forcément.
Ce n'est pas vrai, vraiment. Et ce qui est important dans cette période-là, c'est de vraiment essayer d'ouvrir un dialogue, peut-être qui s'est éteint d'ailleurs dans le couple, mais réouvrir un dialogue en disant, est-ce que vraiment la personne que je suis devenue et la personne que tu es devenue, est-ce qu'on est toujours en phase? Et si on n'est plus en phase, comment on pourrait, si on le peut, parce que parfois on ne peut pas, mais si on le peut, réajuster notre couple, d'autant plus que si on a des enfants, qu'on arrive, s'approche de la cinquantaine, ils vont partir. Et pendant toute leur vie, on était un couple parental. Et là, quand ils vont partir, on va redevenir le couple conjugal qu'on était au début. Mais quand je t'ai rencontré, quand on avait 30 ans, t'es plus le même gars ou la même fille qu'on a 50. Et donc, en termes de priorité de vie, en termes de rêve, d'aspiration. Et il se peut que quand les enfants sont sur le départ ou qu'ils sont déjà partis, on se retrouve en face de quelqu'un qu'on a appelé même papa à un moment donné ou maman.
Ce qu'on veut, c'est le rechoisir, celui-là. On ne peut pas s'appeler papa ou maman.
Si.
Ah, merci. Vous faites ça, Julien.
Mais le rechois peut être difficile. Et parfois, certaines personnes qui ont du mal à être dans cette confrontation-là vont peut-être prendre le choix, peut-être facile, d'aller regarder ailleurs où on sera regardé par une autre personne, comme on a besoin d'être regardé, comme on n'est plus regardé par son compagnon ou sa compagne, un regard qui nous dit « mais tu existes ».
Oui, mais en même temps, pendant cette période-là, entre 40 et 50 ans, il y a aussi des phénomènes physiologiques, hein, la ménopause ou l'andropause pour les hommes qui arrivent justement à ce moment-là. Ça ne doit pas aider en plus à se sentir bien dans son couple. Comment on s'adapte? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, avec ces changements du corps?
Exactement. Donc déjà, au niveau médical, il y a des choses qui peuvent être faites vraiment pour prendre en compte toutes les dimensions à la fois de la ménopause, mais aussi pour les hommes.
Hein,
on sous-diagnostique la baisse de testostérone qui fait que des hommes sont complètement déprimés, fatigués, en perte d'énergie et ils pensent qu'ils sont déprimés dans cette période-là alors qu'ils sont juste en baisse de testostérone. Et donc, c'est vraiment des choses à voir au niveau médical.
Mais il y a moins de désir en plus à ce moment-là.
Il y a moins de désir à ce moment-là. Donc, il y a vraiment... c'est attends,
vous voulez témoigner, Clément Lanoux, on voit avec des grands yeux.
J'écoute, mais j'apprends, je me dis que c'est intéressant.
Il y a beaucoup de femmes qui disent quand même, des études le montrent, il y a plein d'études là-dessus, qui montre effectivement que le fait qu'il y ait que la ménopause arrive, il y a un stress qui s'en va. Il y a beaucoup de femmes autour de la cinquantaine et qui disent mais je peux vraiment jouir de mon corps de façon complètement différente sans prendre des produits qui vont bloquer la reproduction. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement bénéfique. J'insiste sur cette période-là au niveau du corps, de la sexualité et autres, ça peut être extrêmement bénéfique. Il y a vraiment des personnes qui, comme il y a un long temps de vie encore devant soi, qui sont vraiment dans un épanouissement. Hein. C'est pas Avant qu'on se marie en disant jusqu'à ce que la mort nous sépare, bien sûr, parce qu'on mourrait à 40 ans au Moyen Âge. Donc,
c'est bon.
Mais là, quand on dit jusqu'à ce que la crise de la quarantaine nous sépare, hein, c'est ça.
Quand on est à 80, 90 ans, on a vraiment à 50 ans une pleine expansion de sa vie. Donc c'est à embrasser avec beaucoup de joie, ce truc-là.
On va terminer encore sur l'amour, justement, parce que nous, on veut du positif. Comment on le rechoisit, ce conjoint ou cette conjointe à 40 ou 50 ans? Quels sont vos conseils pour repimenter, peut-être, s'il le faut?
Pour rechoisir, c'est d'abord, on se pose tous les deux, la clé encore. C'est, on se pose, on se parle, on dit, OK, où on en est? On fait un audit de notre couple. Est-ce que je t'ai perdu de vue, les deux? Et comment je t'ai perdu de vue? Et comment je ne te vois plus? Ou comment je me sens plus exister dans ton regard? Et je dis, mais qu'est-ce qu'on a laissé tomber au fil du temps? Qu'est-ce que, en étant trop parents, on a oublié de notre couple? Et si on se projette dans nous, à nouveau couple conjugal, qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qu'on a envie de différent? Et il faut là-dedans mettre, là, je disais tout à l'heure, beaucoup de joie, de projet, et pas le vivre comme une fermeture où on va être dans un truc... où on va étouffer, parce que c'est une bonne recette pour que le couple explose.
Et si, alors, on le voit, hein, des gens qui partent avec des personnes plus jeunes, ouais. En mode cougar pour nous les femmes, et en mode quoi, vieux beau, hein, je sais pas comment on les appelle pour les mecs qui prennent une bagnole et qui vont voir une plus jeune, c'est vraiment courant, ça, et qu'est-ce que ça raconte surtout?
Ça, c'est... Alors, courant, je ne sais pas au niveau
sociologique. On le voit dans les films, en tout cas.
C'est très, très, très courant. Mais en tout cas, là, clairement, il y a une peur. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Hein, mais il y a notamment une peur une volonté, c'est un peu classique de le dire, mais c'est pourtant vrai, de se rassurer sur le fait qu'on séduit. Au bout du compte, c'est voir dans le regard d'une jeune personne le fait qu'on reste toujours séduisant, amusant, attractif. Mais le truc, c'est que si on va au bout de la démarche et qu'on épouse une jeune femme qui va vouloir des enfants, on va se retrouver à 50 ans, 55 ans, avec un bébé de 3 ans sur les bras.
On
n'a plus envie d'être là. On n'a plus du tout envie d'être là. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'au bout du compte, c'était simplement pour me rassurer. C'était pour exister dans un regard qui me dit, oui, tu existes.
Alors, plutôt que de se prendre une jeune femme de 20 ou 30 ans de moins, comment on fait à l'adresse des hommes qui nous écoutent pour se rassurer sans faire ça?
Alors attention à la réponse, s'il n'y a pas d'autre solution, on va briser des couples.
Non, c'est un peu difficile comme question. Comment on se rassure? C'est un truc de d'abord regarder la peur. Hein. Si on ne regarde pas la peur et ce qu'elle est capable de nous faire faire, vraiment, la peur prend la possession de nous. Les gens disent, OK, je suis dans cette angoisse-là, peut-être s'en ouvrir à son épouse. Peur. J'ai peur que de plus être séduisant, j'ai peur de plus être à la hauteur, j'ai peur. C'est compliqué hein, pour un homme de dire ça à son épouse, mais c'est un chemin possible. Et c'est peut-être aussi se dire, OK, je vais peut-être faire des choses que je ne faisais pas, peut-être prendre plus soin de moi, plus soin de mon corps, et peut-être se valoriser narcissiquement, parce qu'à 50 ans, quand tu as un gros bide et qu'on pourrait présenter ça à son épouse, bah, elle a peut-être moins envie. C'est et sûr. Puis elle aussi voit sur la plage un gars un peu plus jeune avec le ventre un peu plus mince et se dit, OK, mais quand je sors dans mon lit tous les soirs, c'est pas sympa. Et donc, il y a une responsabilité aussi de dans le couple de quels efforts c'est je fais ou quels efforts j'ai arrêté de faire pour me rendre attractif envers l'un, envers l'autre. Et c'est une vraie responsabilité de c'est pour ça que je parle de travail d'amour dans un de mes bouquins. C'est un travail de se faire aimer, mais aussi d'abord d'être aimé de soi. Et si on a un corps qu'on a laissé tomber, si on a lâché la rampe, on va avoir envie de se rassurer peut-être à l'extérieur, alors que c'est l'intérieur qui a besoin de se rassurer de soi à soi.
Une petite dernière question, Clément.
Oui, on oublie en fait l'amour, je trouve, dans l'exemple qu'on prend, où justement les hommes, on dit, ou les femmes quittent leur conjoint pour se rassurer. Il y a aussi des très belles histoires d'amour, sûrement,
et
à travers ça.
Exactement,
qu'il faut
bien
vivre
sûr.
Aussi.
Voilà, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de blanc et de noir. On peut vraiment se rendre compte que non, à 50 ans, mon couple ne fonctionne plus. OK, c'est bon, on a vraiment cherché, il ne fonctionne plus, essayons de divorcer de façon la plus intelligente possible. Et là, vraiment, s'ouvre une autre vie qui peut être absolument fantastique.
Allez, donc ce vraiment sera notre thème de l'émission la prochaine fois.
Avec notre sagesse, la nouvelle avec vie. Notre sagesse, notre intelligence, notre maturité. Et après, il y a toutes les problématiques de famille recomposée, mais ça c'est autre chose.
Une autre émission. Merci beaucoup, docteur Fauré, de nous avoir accompagnés ce matin. Merci pour tous vos conseils, pour nous aider à traverser sereinement cette étape du passage à la quarantaine ou à la cinquantaine. Pour plus d'infos, je rappelle votre livre, Maintenant ou Jamais, paru chez Albin Michel. Et Julia, à présent, on va changer de sujet.
Et oui, Mélanie, place à notre tour de table des temps. Tendance. Dans quelques minutes, Soizic Belin et le docteur Aurène Marco sont en train de nous rejoindre en studio. Au programme, on va se défouler dans une Fury Room et se débarrasser de nos petits bourrelets. Tout ça, c'est sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous du lundi au vendredi de 11h à 12h30. C'est votre magazine bien-être dans lequel on vous fait découvrir nos meilleurs bons plans, ceux qu'on a testés pour vous et qui nous font vraiment du bien car c'est ça notre objectif tous les jours ici.
Oui Julia, alors déjà il y a le docteur Aurène Marco autour de la table alias Docteur Beauty.
Bonjour.
Notre magicien de la beauté. Ce matin je crois que Aurène vous allez nous proposer un tour assez épatant avec une chronique qui fait disparaître les bourrelets, c'est
voilà,
ça?
Voilà, parce qu'on est en septembre, mais le summer body, ça se prépare en hiver, en vrai.
Évidemment.
Donc, on va en parler maintenant.
Bon, bah, génial.
Merci, Aurène Marco. On revient avec vous dans quelques minutes pour en finir avec les bourrelets. Nous, avec Mélanie, ça
on
nous intéresse.
Toi, ouais.
Oui. Mais tout de suite, on va démarrer avec vous, Soizic Belin, bonjour. Et on va bien se défouler, je crois, ce matin.
C'est ça. Ce week-end, j'ai testé une Fury Room. Voilà. Ça s'appelle aussi Rage Room, Hunger Room, vous l'aurez compris, salle de fureur. Alors j'avais besoin de me défouler, de faire le vide total, de lâcher prise et de me concentrer sur une activité qui ne nécessite aucune, mais vraiment aucune stimulation intellectuelle. Je suis donc allée pour tout casser. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est assez simple. Vous réservez un créneau sur le site Fury Room. Arrivez sur place, vous enfilez une tenue de combat qui consiste en un bleu de travail, des chaussures de sécurité, une protection qui couvre tout votre buste, une sorte de tablier qui se clipse autour de vos jambes, un protège-cou, des gants, une charlotte et un casque. Et avec tout
sacré
ça...
Sacré équipement hein.
Voilà. Vos mouvements sont nettement réduits, hein, je vous l'assure, mais soit, sécurité oblige, vous n'irez pas tout casser en petite tenue.
D'accord.
Alors la salle se situe en sous-sol, vous perdez quelques degrés et c'est bien. Et dans cette salle, il y a de quoi passer une bonne vingtaine de minutes en mode destruction totale. Une table dressée sur laquelle reposent des assiettes, des tasses, des bouteilles, des soucoupes et puis des étagères également bien fournies et de l'électroménager, entendez par là, télévision, ordinateur, chaîne hi-fi, ventilateur. Et puis quelques consignes de sécurité, un lancement de votre playlist. Moi j'avais choisi Hard Rock en me disant que ça motiverait un petit peu. Hein. Et puis résultat des courses, 20 minutes plus tard, des petits tas de débris par-ci par-là. Le gros matos sans aucune égratignure. Les deux pieds de biche et les battes de baseball n'ont pas assuré du tout. Alors je préfère me dire que c'est la faute du matériel. Parce que, un, je suis une mauvaise perdante. Et puis deux, finalement, nous n'allons pas dans ces salles pour remporter un trophée. Ici, pas de système de points, pas d'obligation ni d'encouragement à la performance. Alors, délestée de mon costume et un peu transpirante, j'ai pu rencontrer l'homme qui est à l'origine de cette activité à Paris et je lui ai posé quelques questions. Tout d'abord, qu'est-ce que la Fury Room en chiffres ?
Alors, par semaine, on va être sur une tonne de vaisselle malfaçon, de malfaçon qui passe, sur environ 8000 bouteilles, une centaine d'écrans, pareil, une cinquantaine d'unités centrales, une cinquantaine de téléphones, voilà, en gros, ce que ça représente une semaine de consommation Fury Room.
Mais en fait de la casse, c'est incroyable. Mais d'où vient toute cette matière, Soizic ? Que fait-on des fameux débris là, dont vous parliez ? Alors, le patron préfère rester discret sur les circuits d'approvisionnement au cas où on voudrait tous ouvrir une Fury Room, car c'est un peu la clé du succès. Mais sachez par contre que ce qui coûte cher dans ce business de la casse, c'est le recyclage. Il faut compter environ 140 euros pour recycler une tonne de porcelaine et de verre, sans compter la manutention et voilà.
Bon, donc ça veut dire que tout est cassable, non ?
Et non, il y a des objets interdits.
Oui, alors plutôt des choses qu'on ne met pas pour la sécurité des gens ou par superstition. Évidemment, le miroir, ça ne sert à rien de jouer avec la malchance. Les frigos, parce qu'il y a du gaz dedans. Les climatisations, c'est pareil. Les néons aussi, donc c'est des choses qu'on ne met pas pour pas que ça puisse nuire à la santé des clients.
Alors, à quoi ça sert ? Alors, comme je vous le disais en début de ma chronique...
Moi, je vois bien l'intérêt quand même. Hein. Franchement, oui, ça donne envie d'aller casser, je trouve.
Bah alors, oui, ça sert à se défouler. Le patron insiste sur la notion de catharsis. Il fait du divertissement. Il ne propose pas thérapie, je le répète. Mais il avoue recevoir certains psychologues qui viennent, eux, avec leurs patients dans le cadre de leur thérapie.
Alors, c'est génial. Bah ouais.
Il y a beaucoup de team building. Donc, si vous voulez, on y va tous. Le week-end prochain, ça sert à resserrer les liens entre collègues, histoire de défoncer l'imprimante du bureau à plusieurs ou la machine à café, au choix. Et puis, il y a des amis qui viennent à deux, trois pour décompresser de leur semaine et qui seraient prêts à investir dans une carte de fidélité.
Là, après, fatiguée, en sueur, oui, complètement. Bien, ça défoule bien, ça détend vraiment beaucoup. On a un peu l'impression d'avoir hurlé sur quelqu'un dans la rue.
Non.
Qui nous a agressé. De se venger un petit peu de tout ce qui nous emmerde dans la vie de tous les jours, c'est assez sympa.
Donc là, vous pouvez partir sur une bonne semaine, enfin un bon week-end avant la bonne semaine, non? Il faut une deuxième séance alors.
Je pense que ouais, ça peut se faire de manière régulière pour se détendre. Mais ouais, potentiellement, on pourrait partir sur une bonne semaine. Pour ce qui nous arrive dans la semaine.
Et puis sachez que vous pouvez aussi venir avec vos petites têtes blondes à partir de 6 ans. L'activité est évidemment adaptée à leur âge. Il y a des édredons et des objets en mousse pour satisfaire leurs besoins de désingage.
Oh, je vais tout casser.
C'est parfait.
Merci
c'est
beaucoup.
C'est très à propos.
Merci
pour cette chronique.
Qui était effectivement assez défoulante. Je crois qu'on est prête à tout casser avec Julien. On va organiser un truc pour l'émission, là, pour toute l'équipe. Mais là, surtout, je me tourne vers vous, docteur Aurène Marco. Vous vous cassez rien, mais on va quand même casser du bourrelet, je crois, ce matin.
On va casser du bourrelet ce matin. Et on va, peut-être pour se défouler, il y a le sport aussi. Le sport, ça nous permet de nous détendre, mais également de préparer le summer body. Mais des fois, le sport et le régime alimentaire ne suffisent pas.
Alors là.
Et il nous reste des petits bourrelets disgracieux dont on aimerait bien se débarrasser.
Alors justement, quand on a fait du sport, qu'on a bien mangé, mais qu'on a des bourrelets, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors soit on les accepte, soit...
Non, si on ne les accepte pas, par exemple.
Alors il y a bien sûr la petite liposuction qui est connue depuis longtemps, la petite liposuction...
Il dit la petite lipo, c'est quand même une anesthésie générale,
Pas forcément, on peut faire des liposuctions douces sous anesthésie locale, d'accord. Avec une petite canule, on fait une petite anesthésie de la zone dont on a envie de se débarrasser. Et on peut aspirer, ça se passe en ambulatoire. Ou alors, si on veut faire vraiment une liposuction de plusieurs zones, effectivement, il faut une anesthésie générale. Ça, c'est gérable et faisable. Si vous avez un poids qui est stable, vous avez déjà perdu votre poids et il vous reste des petites zones un peu partout. Ce n'est pas une technique pour maigrir.
D'accord.
Ensuite, depuis quelques années maintenant, enfin, c'est assez récent quand même, est apparue la cryolipolyse. Je ne sais pas si vous connaissez.
Le froid, si, on en voit
partout. Pas trop compris, moi. Vous pouvez m'expliquer ?
Alors déjà, c'est à bien différencier de la cryothérapie, parce qu'on confond souvent les deux termes. La cryothérapie, c'est la récupération des sportifs quand ils rentrent dans le caisson.
Ça, je le fais, ça.
Voilà, là...
C'est vrai. Je ne fais pas de sport, mais je vais dans les caissons.
Mais c'est sympa.
Voilà, c'est super.
Ça détend aussi, comme la salle. La cryolipolyse, en fait, c'est quand vous mettez deux petites plaques sur la zone de bourrelet, et les petites plaques vont refroidir les tissus entre moins 8, moins 9, moins 10 degrés, et ça permettrait de détruire les cellules graisseuses et donc du coup de perdre des centimètres. Donc ça se fait chez le médecin.
Mais il va où le gras là du coup ?
Et le gras du coup, il est résorbé par le système lymphatique. Ouais. Alors ça fait 4-5 ans que c'est en place. Il y a des bons résultats. Après, toutes les patientes ne sont pas des bonnes candidates à cette technique.
Pourquoi ?
Parce que je pense que cette technique-là, elle marche très très bien sur la graisse qu'on a sous la peau, c'est-à-dire la graisse sous-cutanée, directement au contact de la plaque. Mais par contre, ça ne marche pas pour les graisses profondes accessibles par la liposuction. Donc on va dire que c'est une technique un peu complémentaire.
D'accord.
C'est du cas par cas.
Et c'est pas dangereux ça, parce que moi j'avais lu des trucs, il faut faire attention quand même, non, la cryolipolyse ?
Ben, il faut faire attention. Déjà, il faut aller voir des médecins qui ont les appareils agréés et pas partir dans des instituts qui ont peut-être des appareils qui ne sont pas aux normes.
Là, il peut y avoir des dangers sur la peau, des risques de nécrose, de
brûlure par le froid.
Ouais. Donc attention avec qui vous allez.
Voilà. Et même des risques d'hyperplasie paradoxale. C'est quand votre cellule graisseuse, avant de mourir, le froid la fait grossir et après, normalement, elle éclate. Sauf que si ça ne suffit pas, elle grossit, elle éclate pas. Donc vous avez un peu plus de gras.
Bon,
vous n'avez pas une autre technique ?
Autre chose. Allez, on passe à la suite.
Après, il y a des techniques plus douces avec des massages. Alors, on a beaucoup entendu parler des palpés roulés.
Oui.
Les palpés roulés, il faut faire ça également. C'est toujours chez des praticiens très avertis qui connaissent bien la technique, parce que le palpé roulé qui consiste à pincer, ça fait mal pour détruire les amas graisseux localisés superficiels. Ça peut détendre la peau. Donc, il faut toujours aller chez des praticiens où vous avez entendu que du bien et ne pas se laisser tenter par un palpé roulé comme ça.
Trouvé dans la rue au hasard.
Voilà, vous êtes plutôt on voit quand même.
Palpé roulé manuel ou avec la petite machine là,
moi, je suis très manuel. Appareils, moins. Je suis bien. Je fais confiance à la main.
À la main de l'homme.
Exactement.
Et une autre technique, et j'ai entendu parler de la radiothérapie.
Alors, non, la radiothérapie, c'est une.
Non, c'est pas ça.
Ça, c'est plus médical. Par contre, non, l'autre technique vraiment en vogue de manière récente, c'est que maintenant, on fait beaucoup d'amalgame entre j'ai des bourrelets et j'ai un peu trop d'eau. Et donc, maintenant, on parle beaucoup du drainage lymphatique.
Ah oui. Alors, le drainage lymphatique,
et là,
ça vaut quoi ?
C'est la tendance. Alors, le drainage lymphatique anciennement fait chez le kiné, c'était un peu difficile. Maintenant, on a la nouvelle méthode brésilienne.
Renata.
Renata, franchement. cas. Et on a vraiment des résultats incroyables. Alors,
c'est du massage aussi.
En fait, c'est du massage qui permet de réactiver le système lymphatique.
Julia a l'air d'hocher la tête, elle connaît. Je crois.
Julia, vous connaissez.
Ça m'a séché.
Ça sèche.
Ça sèche.
En fait, vous perdez toute l'eau qui n'arrive pas à s'éliminer au niveau des membres inférieurs. Et souvent, on confond. Les femmes viennent en consultation pour me dire j'aimerais faire une liposuction. En fait, rien à voir. Elles ont juste de l'eau. Et donc, c'est à nous de les diriger. Et donc, maintenant, cette technique vraiment qui marche très, très bien. Alors, c'est un rituel.
Une séance, j'imagine.
Il faut répéter les séances. C'est un entretien. Mais c'est vrai qu'au bout de quelques séances, on s'aperçoit que le système lymphatique va mieux, qu'il est réactivé. Et
donc
du coup,
ça affine la jambe aussi, si c'est la jambe en question.
Exactement, ça affine la
jambe. Jambes légères.
Jambes légères, on se sent beaucoup, beaucoup mieux.
C'est pour ça que vous flottez, Julia, comme ça sur ce
sujet. Oui, il faudrait que j'y aille plus souvent pour flotter. Effectivement, mais on a fait le tour des techniques.
On a fait le tour des techniques et j'aimerais juste insister sur un point, ne pas confondre cellulite.
Oui.
Et amas graisseux profond.
Oui, je ne confonds pas. Moi.
C'est quoi la différence? Oui, on a compris. La cellulite, c'est en surface. La peau d'orange,
en surface,
on va dire.
Peau d'orange. Et ce n'est pas du tout les mêmes techniques. Donc, toutes les techniques dont je vous ai parlé, la liposuction, la cryo, etc., n'éliminent pas
ça.
La cellulite.
Très bien. On fera un sujet cellulite.
Bien
ça
sûr.
Nous passionne. Merci, docteur Aurène Marco. Merci à vous également, Soisy, qu'on vous retrouve tous les deux très bientôt dans Bienfait pour vous. Pour d'autres tendances, d'autres conseils beauté, Mélanie, on va passer à présent à la séquence santé de notre émission. Quel est notre sujet aujourd'hui?
Eh bien, Julia, vous savez, c'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Et donc, on va tout faire. Enfin, on va voir ce qui est possible, en tout cas, pour l'éviter, cette maladie, ou du moins repousser son apparition le plus tard possible. Le professeur Philippe Amouyel va nous donner ses meilleurs conseils, ce qui fonctionne vraiment pour garder un cerveau jeune et en forme sur Europe 1.
Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le programme d'Europe Midi, les 20 ans du drame de l'explosion de l'usine AZF, cérémonie du souvenir ce matin à Toulouse. Les victimes sont encore divisées 20 ans après, nous dira Benjamin Péter, le correspondant d'Europe 1. Le département de Seine-Saint-Denis croule sous les demandes de RSA, à tel point que c'est l'État qui va désormais payer une grosse partie de la facture. On se rend direct avec le président du 93, le département de la Seine-Saint-Denis. Je passerai un coup de fil également au maire de Laigneville, c'est dans l'Oise. Un cortège de mariage a fait n'importe quoi dans sa ville dimanche. Il va nous raconter ce qui s'est passé exactement. Il va nous dire également que grâce à la vidéo-verbalisation, il a dressé plus de 70 PV. Et puis Jean-Michel Aulas veut mettre des micros sur les arbitres de foot. Ah bon, pourquoi? On va tout vous expliquer de ce qui pourrait être une révolution sur les terrains. Voilà le programme d'Europe Midi. À tout à l'heure, dans une demi-heure.
Europe 1. Merci beaucoup Romain, à tout à l'heure.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine dédié au bien-être, au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30 et dans la demi-heure qui va suivre, comme tous les jours avec Julia, on va surtout prendre soin de votre santé.
Oui Mélanie, dès midi comme chaque jour, un invité est avec nous en studio. Et aujourd'hui, c'est le professeur Philippe Amouyel. Il est spécialiste des maladies du vieillissement au CHU de Lille et le directeur général de la Fondation Alzheimer. Il va nous expliquer ce midi tout ce qu'il faut faire vraiment au quotidien pour entretenir son cerveau et réduire le risque de souffrir de cette pathologie.
Et puis à 12h20, il y aura notre chronique et vite fait, très bien fait, ce dernier petit conseil bien-être du jour pour vous faire du bien jusqu'à la dernière minute. Ce midi, c'est notre coach sportif préféré qui est aux commandes, Jean-Marc Delorme. De quoi va-t-on parler avec vous tout à l'heure?
Aujourd'hui, on va parler de stretching, on va tout savoir sur les étirements.
Ah, bien étiré,
bien, j'en ai besoin. Merci beaucoup Jean-Marc, on vous retrouve avec plaisir comme tous les mardis. Ce sera dans quelques minutes, mais pour le moment, c'est notre dossier santé du jour.
Allez, c'est parti, on attaque notre dossier santé consacré à notre cerveau qu'on va bichonner ce midi avec vous. Professeur Amouyel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des maladies du vieillissement et directeur général de la Fondation Alzheimer. Alors justement, pour démarrer peut-être en quelques mots, cette fondation, de quoi s'agit-il? Quel est son but?
Alors c'est une fondation qui est réellement dédiée à la recherche. Tous nos dons vont aux chercheurs, on a des moyens de financement indépendants dans cette fondation. Et on a trois axes. L'axe, c'est la recherche de nouveaux traitements. Mais c'est également la prévention, c'est quelque chose qui est très important à disséminer dans la population. Et puis enfin, c'est tout ce qui est innovation, parce qu'on croit beaucoup dans l'innovation pour aider les gens maintenant. C'est maintenant que les patients souffrent, c'est maintenant que les aidants souffrent, et les nouvelles technologies ouvrent un champ de développement et d'aide extrêmement important. Donc on a lancé des programmes, en particulier avec le CEA, vous savez, ces gens qui ont fait ce fameux exosquelette commandé par la pensée, pour voir si on ne peut pas là encore aider les patients atteints de maladie d'Alzheimer et leurs familles.
Alors aujourd'hui, on le rappelle, c'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Avant de passer à vos conseils, professeur, un mot tout de même sur cette maladie qui nous fait très peur. Est-ce que c'est vraiment une épidémie? Je veux dire, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens touchés. Que disent les chiffres en réalité?
Alors c'est normal, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on vit tous de plus en plus longtemps, que ce soit dans nos pays, mais également dans des pays comme la Chine et l'Inde. Mais à côté de ça, on sait que, lié à l'âge, on a une augmentation du nombre des cas de patients atteints de troubles des fonctions intellectuelles et, plus généralement, de maladies d'Alzheimer. Alors pour vous donner une idée, on détecte 50 millions de cas par an. Donc il faut savoir que la moitié surviennent en Inde, en Chine, dans les pays d'Asie, où ça commence à devenir un problème extrêmement important. On estime que si on continue sur cette tendance d'augmentation de l'espérance de vie, qui est quelque chose de très positif, on devrait finir malheureusement aux alentours de 2050 à 150 millions de cas diagnostiqués.
Mais dans la population en elle-même, en proportion, en fait, il n'y a pas plus de malades. Enfin, je veux dire, j'ai pas plus de risques, moi, aujourd'hui, qui suis née en 1983, que mes parents ou que ma petite fille. Je ne sais pas comment on se positionne.
Même vous auriez un petit peu moins de risques de le développer, parce qu'on s'aperçoit, et c'est là-dessus qu'est basée la prévention, que de plus en plus de personnes arrivent à repousser l'âge de début des symptômes. Et si vous n'avez pas de symptômes, même si vous portez la maladie, vous n'êtes pas considéré comme malade.
Et donc, ce que vous dites, vous avez même écrit un livre que j'adore sur le sujet, c'est ma Bible, le guide anti-Alzheimer Recherche Midi, c'est qu'aujourd'hui, donc, on peut la prévenir, cette maladie d'Alzheimer, dans certains cas, en tout cas, si on change certains de nos comportements. C'est vraiment prouvé, ça?
Alors oui, alors ça a toujours été... On sait qu'il y a des gens qui démarrent leur maladie à 65 ans, à 75 ans, à 85 ans, et on s'est rendu compte qu'il y avait des facteurs qui expliquaient ce départ un peu plus tardif de la maladie, ce démarrage un peu plus tardif de la maladie. On les a analysés, et surtout, on s'est aperçu que dans les cohortes de naissance, c'est-à-dire si vous êtes né en 45, si vous êtes né en 50, en 55, plus on avance dans le temps, on a vu ça dans des grandes cohortes, plus on a l'impression que la maladie d'Alzheimer diminue. En fait, elle ne diminue pas. Ce qui se passe, c'est qu'on repousse l'âge de début des symptômes et le diagnostic est posé plus tard. Alors si, par exemple, au lieu de déposer le diagnostic à 75 ans, vous le déposez à 85 ans,
malheureusement... quand même, de toute façon, c'est mieux qu'elle le démarre le plus tard possible. Non, bien sûr.
Vous risquez de mourir d'autre chose, parce que malheureusement, c'est ce qui arrive entre les deux. Et vous pourriez mourir sans jamais avoir développé les symptômes, donc comme si vous n'aviez pas fait l'Alzheimer.
Bien sûr. Alors, il y a des chercheurs qui disent qu'en limitant effectivement le diabète, la sédentarité, le tabagisme, on pourrait réduire d'un tiers le nombre des malades, ça c'est vrai, professeur?
Oui, tout à fait. En fait, on estime à peu près que si on arrive à repousser d'environ 5 ans l'âge de début des premiers symptômes, par les mesures que vous avez évoquées et d'autres, on pourrait, au bout de 10 ans, réduire de 30% le nombre total de patients atteints de Alzheimer. Ce qui résoudrait pas mal de problèmes au niveau de la population. Bien sûr, ça ne résoudra jamais le cas individuel de la personne malade. Ça, ce sont les traitements, les prises en charge. Mais au niveau de la population, ça pourrait être quelque chose de très utile.
Bon, on va passer à des choses très concrètes pour garder un cerveau en forme, repousser Alzheimer le plus loin possible. On imagine bien sûr que ce cerveau, il faut le stimuler. Mais alors attention, ça passe pas forcément par des activités qu'on aime ou qu'on a l'habitude de faire. Au contraire, pour repousser Alzheimer, il faut aller vers l'inconnu, je crois.
Alors c'est bien de faire ce qu'on aime. Ça, c'est un bon point. En revanche, il faut mettre votre cerveau dans une situation dans laquelle qu'elle n'est pas habituelle pour lui, parce que c'est ça qui lui permet de se développer. Donc l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort. Mmh. Il y a un truc qui est extrêmement simple. Par exemple, si vous êtes droitier, essayez de vous servir 10 minutes par jour de votre main gauche.
Elle a changé de stylo, là, ça y est, elle a changé de main.
C'est vrai. Si vous êtes gaucher, inversement. Alors, il faut le faire un petit peu tous les jours. Ce qui est important dans la prévention, c'est d'en faire tous les jours un petit peu.
Le problème,
c'est
que j'arrive pas à la lire, là, maintenant.
Ouais, mais peut-être que dans un mois, ça marchera. La lire.
Et si j'aime pas la cuisine, je m'y mets? Ou ça rien à voir.
Si vous n'aimez pas la cuisine, vous pouvez vous y mettre. Mais l'idée, c'est quand même de faire des choses qu'on aime bien, mais de bien le faire et le faire le plus souvent possible.
Oui, d'accord. Donc, et ça, il faut commencer à quel âge? On a fait dans cette émission juste avant une émission sur la crise de la quarantaine, la cinquantaine. Est-ce que ce n'est pas justement cette tranche d'âge où c'est le moment vraiment ou jamais de stimuler son cerveau?
Et oui, parce que nos fonctions intellectuelles, comme notre corps, diminuent avec l'âge et ça commence à diminuer à partir de 40-45 ans.
Ah oui.
C'est un vieillissement normal. Donc si en plus du bénéfice de la crise de la quarantaine, on peut quand même... essayer d'améliorer son cerveau, c'est très bien. Le premier symptôme, généralement, à ce moment-là, c'est l'oubli des noms propres.
Le
nom propre est quelque chose de difficile à retenir. C'est difficile d'accrocher ça à des associations.
On se rappelle parfois plus du visage de la personne que de son nom, hein,
voilà,
c'est vrai.
Exactement.
Hein.
Donc le nom est difficile à identifier. C'est normal, vous le retrouvez peu de temps après. Mais voilà, c'est un de ses premiers signes et c'est là qu'il faut commencer à faire une prévention.
Alors l'hygiène dentaire aussi, c'est étonnant. Apparemment, c'est important pour le cerveau. Je ne vois pas le lien, en fait.
Alors en fait... nos dents et ce qui implante nos dents sont extrêmement vascularisées et c'est une source de microbes, une prolifération de microbes incroyable. Mais c'est normal, hein, ça fait partie de notre microbiote. Mais certaines personnes ont des inflammations au niveau des gencives, hein, ce qu'on appelle une gingivite, avec des germes qui sont très particuliers, qui sont très petits et qui vont pouvoir remonter par certaines voies au niveau du cerveau et entraîner des troubles au niveau du système nerveux central et donc augmenter le risque de développer tôt une maladie d'Alzheimer.
Donc mieux vaut éviter de laisser traîner une gingivite quand même pour faire du bien à son cerveau. C'est ça qui est étonnant.
Pour faire du bien à son cerveau, mais entre parenthèses aussi à son cœur, parce que ces germes ont aussi une action sur l'inflammation cardiaque et entraînent ce genre de problème. Donc la bonne hygiène buccale, ce n'est pas juste pour avoir bonne haleine, c'est aussi pour être en bonne santé.
Bon, autre conseil que vous donnez, ça fait quelques années qu'on vous entend le dire celui-ci, et moi je l'adore, c'est ne pas s'empêcher d'éternuer ou de tousser très fort. Julia l'adore, mais elle veut comprendre pourquoi. Il ne faut pas faire ça.
Ouais, c'est très bien. Pourquoi ? Parce qu'on a tous dans notre cerveau des tout petits vaisseaux. Et ces petits vaisseaux, comme il y en a des milliers, il y en a qui sont un peu moins bien formés que d'autres, une petite déformation. Et quand vous envoyez une grosse pression, quand vous retenez d'éternuer, un éternuement, ça part à 50 km/h, hein, ce qui est une voiture en ville, hein, à 50 km/h, ou
30,
non, à 30, non, mais pas à 50. Ouais. Et donc, du coup, quand vous oscillez, quand vous retenez ça, il y a une énorme pression dans votre corps pendant une fraction de seconde, votre pression, qui peut être à 10, par exemple, se met à augmenter brutalement, et ces petits vaisseaux peuvent claquer. Alors, il ne va rien se passer, vous allez peut-être voir des petites étoiles, comme ça, mais vous allez continuer. Sauf qu'à la longue, vous allez avoir une diminution de votre capital cerveau, enfin, de votre réserve cognitive qui vous sert à résister contre les maladies, et c'est pour ça qu'il ne faut pas tousser, il ne faut pas retenir ça tout.
Allez-y, éternuez, toussez très fort, mais dans votre coude, hein, bien sûr.
Les gestes Covid. La mer aussi, apparemment, je parle de l'alimentation. Cette fois, il paraît que quand on mange des produits de la mer, ça peut aussi nous protéger. C'est quoi cette histoire?
Oui, parce qu'en fait, dans la mer, il y a ces fameux oméga 3 qui sont très utiles. Alors, ça fait partie d'un régime plus général dont on sait qu'il repousse l'âge de début de la maladie, qui est le régime méditerranéen.
Ouais, c'est vrai que ça marche. Ça.
Des produits de la mer deux fois par jour, en particulier des poissons gras. Et ce n'est pas obligatoirement du poisson frais, ça peut être des sardines en boîte qui contiennent autant. Des macros en bois, tous ces poissons gras sont très utiles. Mais il faut en prendre à chaque fois, régulièrement.
Et un verre de vin rouge, régulièrement ou pas?
Alors, le verre de vin rouge, si vous aimez, oui. Mais oui, si c'est pour réduire la maladie d'Alzheimer, on n'a jamais vraiment démontré que ça avait un impact.
Ah d'accord.
Mais c'est pas mauvais pour le cerveau, l'alcool, quand même, en général?
C'est pas terrible.
Oui, c'est un peu ça, quoi. Donc, mais il y a un rôle social, il y a d'autres fonctions de l'alcool. C'est le problème, la question, c'est de ne pas en abuser.
Si on ne mange pas tout bien, comme on vient de le dire, régime méditerranéen, etc., est-ce qu'il y a des petits compléments alimentaires? Je sais que vous aimez bien ça, Julia, les compléments alimentaires qui peuvent faire l'affaire à la place d'un bon régime alimentaire.
Alors là, je vais être
dur.
Ouais. Un peu dur, parce qu'on n'a rien démontré avec les compléments alimentaires, sauf si vous en manquez. Par exemple, si vous manquez de vitamine D, il faut absolument en prendre. Et c'est le cas de 50 à 70% de la population française. Ouais. Donc de ce côté-là. En revanche, si vous allez acheter des oméga 3 extrêmement chers, que vous en prenez tous les jours, eh bien, écoutez, ça revient moins cher d'acheter des boîtes de sardines et d'en manger deux fois par semaine.
Évidemment. Bah, professeur Amouyal, vous ne bougez pas, on n'a pas encore terminé avec vous. Enfin, nos cerveaux ont encore besoin de vos lumières pour rester bien vifs et le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, c'est le moment. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou sur notre répondeur au 3921.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio dans cette dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé et plus précisément on tente aujourd'hui de repousser la maladie d'Alzheimer. On en parle avec le professeur Philippe Amouyal, directeur général de la Fondation Alzheimer. Alors professeur, on va passer aux questions pour vous de nos auditeurs. On va commencer par Céline B sur la page Facebook d'Europe 1 qui dit qu'elle vous avait entendu parler une fois des risques causés par certains sports sur notre cerveau. Vous aviez même évoqué le foot et les risques pour les gardiens de but. Elle s'inquiète car son petit garçon de 8 ans veut absolument uniquement être gardien de but.
Alors, ce n'est pas spécialement le risque pour les gardiens de but en matière de foot. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que on s'est rendu compte que le cerveau est fragile et dans sa boîte crânienne, il est de temps en temps secoué. Des traumatismes, même faibles, mais très réguliers, très répétés, peuvent entraîner une accélération du développement de maladies neurodégénératives. C'est le cas du football américain, vous connaissez sa violence.
Il n'y en a pas beaucoup en France quand même.
Il y en a très peu en France. C'est le cas de la boxe. Hein. Beaucoup de boxeurs, malheureusement, font des Alzheimer ou des Parkinson. À côté de ça, il y a une étude qui a été réalisée en particulier en Angleterre, en Écosse. Et ils ont remarqué que les joueurs de foot qui jouent avec la tête... Mais
c'est plutôt les buteurs, ça, qui vont mettre des têtes.
Ce sont des buteurs. Ces buteurs, ces personnes-là, ces joueurs-là, ont tous pour 60-70% des cas, des lésions de type Alzheimer, malheureusement, qui apparaissent. Et donc, c'est des coups qui sont extrêmement violents. Alors, pour le gardien de but, c'est un peu différent. Le gardien de but, souvent, le risque, c'est la chute, les traumatismes de là. Mais la tête est en général relativement protégée, sauf s'il renvoie avec la tête. Donc, ce que proposent les Écossais maintenant, c'est que jusqu'à 12 ans, dans les clubs de sport d'enfants de foot, ils n'ont pas l'autorisation de jouer avec la tête.
Parce que le cerveau est plus fragile chez les petits, en
plus,
fait, aussi.
Ça limite le développement par la suite.
Alors, faites des têtes quand vous aurez 40 ans, un peu plus tard. C'est ça. Mais pas chez les enfants. Il y a Arnaud également, professeur Amouyel, sur notre compte Instagram. Il a 52 ans, qui dit que sa maman de presque 80 ans fait tous les jours des mots croisés dans le journal. Est-ce que c'est un bon moyen, demande-t-il, de garder son cerveau en forme, car en même temps, elle les fait avec une telle facilité, c'est bluffant. Alors si c'est facile, c'est pas bon pour le cerveau, non ?
Oui, mais elle en fait beaucoup et régulièrement.
Apparemment, elle fait tous les jours avec le journal.
C'est un petit côté entraînement, donc ça la facilite. Alors l'avantage des mots croisés, c'est que ça évoque beaucoup de choses, y compris le vocabulaire. Le sudoku, c'est un peu moins bien. Vous faites que les chiffres, ça fait travailler qu'une partie de votre cerveau.
Vous préférez les mots croisés pour le
cerveau. Préférez les mots croisés au sudoku pour le cerveau, c'est plus large. Ce qu'il faut, c'est faire travailler dans sa globalité le cerveau. L'outil qui est le plus utile, c'est la lecture. Lisez tout ce qui vous tombe sur la main, la Pléiade si ça vous intéresse,
le journal, un magazine,
peu importe, mais lisez, et c'est ça ce qui stimule le plus le cerveau, et il a raison. Et
plus qu'une série, vaut mieux lire un livre que regarder une série.
Ah oui, faire des verticales de série,
Ça, ça fait rien au cerveau, d'accord. Ça n'a pas du bien, en tout cas.
Simone nous a laissé un message sur le 3921, sur notre répondeur. Elle dit que sa maman a Alzheimer, elle est en EHPAD. Sa vieille tante également. Est-ce qu'en suivant tous les conseils que vous avez donnés, professeur, ça peut lui donner une chance d'y échapper? Car il y a malheureusement un terrain génétique, non?
Alors, il n'y a pas nécessairement un terrain génétique héréditaire, comme les gens l'entendent. Ça arrive dans un nombre extrême, moins de 1% des patients. Et c'est souvent des maladies qui commencent extrêmement jeunes, à 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Dans la plupart des cas, ce sont des maladies qui surviennent avec l'âge. Il existe certains facteurs favorisants, comme certaines personnes attrapent plus facilement des rhumes ou ont des réactions immunitaires trop importantes. Donc ça, c'est une prédisposition. Néanmoins, si on met en place une activité préventive forte, cette prédisposition peut arriver ou ne pas arriver. Mmh. Et l'intérêt justement de prévenir, et ça on l'a montré dans des situations où des gens avaient des risques un peu plus élevés, le fait de faire ces préventions actives permettent là encore de repousser l'âge de début des symptômes et peut-être d'éviter l'entrée dans une EHPAD si jamais ça devait arriver.
Allez, une petite dernière, professeur Amouyel, au 3921, notre répondeur, ce message de Bernard qui n'est pas très content, lui, et qui dit « C'est bien beau tout ça, mais aura-t-on un jour enfin un traitement contre cette maladie ? On a fait un vaccin Covid en quelques mois, dit-il, mais pourquoi n'a-t-on toujours rien pour Alzheimer ?»
Bah, la réponse est simple, c'est que l'Alzheimer touche le cerveau, et le cerveau est l'organe le plus compliqué de notre corps dont on ne connaît pas actuellement tous les secrets et tous les modes de fonctionnement. Donc, c'est difficile de réparer quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Néanmoins, il y a des recherches extrêmement actives. Il y a plus d'une centaine de molécules qui sont actuellement en cours de phase d'essai, alors phase 1, phase 2, phase 3, quand on arrive chez l'homme et qu'on regarde l'efficacité. Il y en a une qui vient d'être mise sur le marché aux États-Unis, qui s'appelle l'aducanumab, et qui, elle, va lutter contre une des anomalies que l'on retrouve dans le cerveau des patients atteints. C'est ce qu'on appelle la protéine amyloïde. Elle essaie de l'éliminer. Néanmoins, elle n'est pas encore autorisée ni en Europe ni en France. On se pose un certain nombre de questions. Elle est active sur la protéine amyloïde, mais l'estimation du bénéfice des individus, c'est-à-dire est-ce que les gens vont mieux, est-ce que leur vie est allégée, est plus difficile à mettre en œuvre. Donc il faudra encore un petit peu de temps pour mettre ça en œuvre.
Bon, de l'espoir en tout cas et des recherches en cours nombreuses, on l'a compris. Merci beaucoup professeur Amouyel d'avoir été à nos côtés ce midi. Merci pour tous vos conseils très pratiques aussi pour apprendre chacun de nous à protéger notre capital cerveau au quotidien, car oui, c'est possible. Merci encore.
Oui, merci professeur. À présent Mélanie, il est temps de passer à notre petit bonus tous les jours à la fin de cette émission. La chronique vite fait, très bien fait avec Jean-Marc Delorme. Aujourd'hui, on va parler de stretching. Alors, c'est quoi exactement le stretching ?
Alors, le stretching, pardon, ou les étirements, c'est la même chose. Sensiblement pareil. Majoritairement, ça va servir à replacer les muscles dans dans leur course initiale. C'est-à-dire qu'on fait un effort, ça va un petit peu se raccourcir, d'accord ? Pour ne pas le laisser dans cette position, on va faire des étirements pour regagner une position initiale. Ça peut être aussi dans le cadre de gagner un petit peu de souplesse, d'accord ?
Ça, c'est important aussi.
Ça, c'est important aussi. En revanche, il ne faut pas confondre avec les assouplissements qui, eux, vont se faire à froid. D'accord. Et là, on agit sur le tissu conjonctif, c'est-à-dire qu'on va étirer, ça va se faire au niveau des tendons, etc. Donc, c'est vraiment deux choses totalement différentes.
D'accord, parce qu'il y a à froid et à chaud, c'est bien ça ?
Il y a à froid et à chaud. Les étirements se font à chaud.
Bon, nous, on veut du conseil, on veut du bienfait. Comment on fait bien ces étirements ?
Ah oui, ça c'est vrai.
Alors, il faut, on vient de le dire, les faire à chaud. J'ai une.
Alors, donc, je viens de terminer mon footing, là, tout de suite, je
par
fais
exemple,
mes étirements.
Petit d'accord. échauffement, on fait les étirements. Deuxièmement, sans à-coups. Hein, souvent, on voit les gens qui font, les personnes qui font des étirements, qui forcent un petit
et
peu.
Non, c'est pas ça.
Ça, faut pas faire.
D'accord.
Surtout pas. Ça doit se faire, donc, du coup, progressivement et sans douleur. Hein. Mm-hmm. S'il y a douleur,
on
c'est
arrête.
Pas terrible. Et en plus, il faut faire très attention à ça, parce que si, quand il y a une douleur trop importante, ça engendre un réflexe qu'on appelle le réflexe myotatique. Donc, il y a une contraction qui est soudaine. Et dans ce cas-là, on peut avoir un accident musculaire.
Une blessure, hein, oui.
Une blessure, hein. Donc ça, il faut faire attention. Il faut toujours le faire de manière bilatérale.
Oui. Hein, c'est-à-dire, des deux côtés. La jambe gauche, la jambe droite, etc.
Exactement.
Ouais.
Donc ça, c'est
pareil
c'est
pour
important.
Les bras. Oui.
Et aussi, alors... agoniste, antagoniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, il y a par exemple le biceps et le triceps, quand on fait un effort musculaire, on utilise les deux tout le temps. Même si on fait des biceps, le triceps joue aussi.
Il faut le faire aussi.
Donc il faut étirer.
On étire
le muscle
devant
qui était...
et derrière.
Exactement.
En fait, hein, c'est ça, d'accord.
Voilà.
Et combien,
ça...
combien de temps par muscle?
Alors 20 secondes.
D'accord.
15 à 20 secondes
par muscle.
C'est... Par muscle, c'est suffisant. On le fait alors soit après
le sport.
Un échauffement et, ou après sa séance sportive. En revanche, on va faire très attention si on a fait, par exemple, vous faites les 20 km de Paris ou quelque chose avec des contractions un petit peu plus fortes, pliométriques, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les bondissements, par exemple, si vous faites de la corde à sauter, ou alors.
Non, c'est trop fatigant.
C'est-à-dire que là où il va avoir des fibres cassées, c'est pas la peine. Alors, il y a deux écoles.
Oui,
hein,
on a l'impression qu'il y a des différents avis.
Moi, je recommande d'attendre un petit peu, peut-être 24-48 heures avant de faire les
étirements. Ah oui, donc on n'est plus à chaud, là. On est quand
on
même
plus...
bien froid. Là.
Oui,
ouais.
Non, mais il suffira de se réchauffer et de refaire
ah
les
oui,
étirements.
D'accord.
Mais en tout cas, de ne pas les faire après une
pourquoi
grosse séance sportive, bah parce que ça va casser encore plus de fibres.
Ah. Et ce qu'il faut, c'est qu'elles se réparent, les fibres, en fait.
Il faut qu'elles se réparent, voilà,
ça, c'est
absolument.
Que pour les sports où il y a des à-coups, Jean-Marc.
Que pour les sports où il y a de la pliométrie, c'est-à-dire du bondissement, et de l'excentrique, c'est-à-dire des efforts de freinage musculaire. On en avait parlé la dernière fois, par exemple le squat.
Ouais.
Hein, si vous faites beaucoup de squat, ça casse des fibres. Il faut laisser un petit peu le temps que ça se refasse.
Est-ce, bon. Oui, est-ce qu'il y a des différents types d'étirements
Alors, tout à fait. Ouais. Ouais. Alors, il y a des étirements qu'on appelle des étirements passifs.
Mm-hmm.
D'accord.
C'est quoi, c'est quoi
les,
c'est quand on fait, pas, quand on fait rien, c'est ça,
alors,
c'est pas ça. C'est quand Julia est devant Netflix, là, elle s'étire passivement. Là, je m'étire, par exemple.
Alors, les étirements passifs, ça va être soit pour la récupération. Donc, on va, par exemple, vous avez travaillé les jambes, on va attraper par le dos du pied, vous savez, puis
ah oui,
ramener
derrière,
par exemple le talon.
Hop, la fesse, quoi. C'est
sur,
ça.
Sur la fesse. Hein.
Ça, c'est du passif, non?
Donc, ça, c'est du passif. Et puis, il va y avoir aussi des étirements qui vont être dynamiques. Et là, c'est pour préparer le muscle à...
Alors, c'est
à
quoi, ça, concrètement? Expliquez-nous.
Alors, à son activité. Ouais. Alors, j'y viens. Par exemple, quand on va se préparer à faire une course, par exemple, un petit peu rapide, on va faire des contractés relâchés, par exemple, des gammes qui vont être des talons-fesses, des montées de genoux. Tout
c'est
ça,
tonique,
ça va permettre...
là, c'est de l'étirement tonique,
voilà.
En fait. Hein, c'est
donc
ça,
ça va permettre de mettre le muscle en tension
ça, c'est
et
avant,
aussi,
ça,
et
c'est
aussi
avant.
De les étirer.
Ouais, c'est avant la séance de sport.
Et
ça.
C'est avant la séance de sport.
C'est l'échauffement, d'accord, en quelque sorte.
Ça fait partie de l'échauffement.
D'accord.
Hein,
mais en fait, c'est de l'étirement.
Voilà, exactement.
Ça, je savais plus.
Et aussi, par exemple, quand vous faites les jambes, lancer de jambes vers l'avant, vers l'arrière, ça va permettre d'échauffer.
Mais moi, je
et
pensais que je m'échauffais, mais en fait, je m'étirais. C'est intéressant.
Dynamique.
Hein.
Voilà.
Super, merci beaucoup.
Et également, je reviens juste sur les statiques et aussi pour gagner un petit peu d'amplitude, hein, pareil. Et là, un peu de souplesse. Et là, la durée sera un peu plus longue. On restera 45 secondes pour essayer.
Mmh. Et les autres, c'était 20 secondes par muscle. On a compris.
Voilà.
Mais on n'a plus qu'à y aller, Julia. C'est tiré. Allez, on va faire un peu de barre au sol. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour tous ces
avec
conseils
plaisir.
Sportifs que vous nous délivrez tous les mardis dans cette émission. Et voilà, bien fait pour vous. C'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouvera bien sûr demain dès 11h. Et Mélanie, demain, quelle sera notre question du jour?
Alors demain, Julia, on va se poser la question suivante. Quels sont les pouvoirs magiques de la musique sur nos enfants? Car oui, elle en a. Ça doit se passer aussi quelque part dans le cerveau, tout ça, je pense. Vous verrez que la musique est même carrément au programme de certaines crèches et fait vraiment des merveilles sur les tout-petits.
Et puis Mélanie, il y aura encore de nouveaux sujets tendances de la santé et du bien-être. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.